Les Anasazi, ou ancêtres des Pueblos, par Jean-Richard Dufour et Charlotte Roux.
The name of the Anasazi is a name fundamentally invented by.
Le nom Anasazi a été inventé par les premiers explorateurs militaires américains dans les années 1840, en écoutant les guides Navajo, en référence aux sites archéologiques. Quand on leur demandait qui étaient ces gens qui avaient vécu ici, ils répondaient Anasazi, ce qui, en Navajo, signifie
fundamentally enemies of our ancestors.
Les ennemis de nos ancêtres.
So that name stuck. Archaeologists have used it right up until a couple of
years ago. Et ce nom a été utilisé par les archéologues jusqu'à récemment.
Mostly in our publications.
Maintenant, dans les publications, on les nomme plutôt les anciens, ou bien le peuple des premiers Pueblos, car en fait, ils sont les ancêtres des habitants des 19 Pueblos qu'il reste au Nouveau-Mexique, et de quelques Pueblos en Arizona, comme la tribu Hopi. Évidemment, les descendants de ceux qui ont construit Chaco Canyon et Mesa Verde ne s'appellent pas eux-mêmes Anasazi et ne l'ont jamais fait.
Il y a 20 ans, je me souviens, il y avait deux siècles inconnus dans la culture Anasazi, et aujourd'hui ce trou est comblé. Chaque jour, les archéologues font de nouvelles découvertes qui remettent en cause ou confirment des théories. Pas de traces écrites, mais surtout des restes architecturaux afin de comprendre cette civilisation en avance sur son temps. Les ancêtres des Pueblos ont habité une vaste région sur laquelle on trouve de nombreux vestiges. Néanmoins, deux sites sont particulièrement importants, Chaco Canyon au Nouveau-Mexique et Mesa Verde au Colorado. Dave Stewart les connaît bien, il est professeur à l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque et il a publié plusieurs livres sur les Anasazi.
The starting of it really is defined by the transformation.
Tout a commencé lorsque des centaines de gens se sont réunis pour former des petites fermes.
Farmers or horticulturalists. At about.
C'était 2-3 siècles avant la naissance du Christ. Le processus pour que ces gens, ici, dans le sud-ouest, se soient mis à cultiver des haricots, du maïs, des courges, a pris environ 1000 ans. Mais ce n'est que lorsqu'ils ont construit des villages sédentaires qu'on a commencé à les appeler « peuple des Pueblos ». Aussi, le mot « Pueblo people », peuple des Pueblos, signifie « fermier sédentaire ». Et on les a appelés les Puebloas, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, lorsqu'ils se sont installés en 1597. Il y avait eu avant des expéditions comme celle menée par le célèbre Vasquez de Coronado durant l'hiver 1540-1541, qui avait eu des rapports surtout avec les fermiers qui vivaient dans des villages de 3, 4 ou 5 000 personnes. Ils venaient de nulle part. Ils descendaient génétiquement de gens qui se trouvaient dans la région depuis 8 ou 10 000 ans. On tombe alors dans un grand débat qui agite les Américains. On ne peut pas dire d'où ils viennent. Ils étaient là.
They grew in numbers, they began to farm.
La population a augmenté. Ils ont commencé à travailler la terre. Les villages se sont sédentarisés. Cela fait longtemps qu'ils appartiennent à cette partie du monde. Depuis 600 générations. Quelque chose comme ça.
Bienvenue à Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique.
Chaco Canyon est aujourd'hui un endroit éloigné de tout. Un seul panneau sur la grande route qui indique la direction. Et après, c'est une toute petite route qui se transforme en piste. Il faut même traverser un arroyo, ce qui signifie qu'on ne peut pas s'y rendre en cas de forte pluie. Il s'agit d'un parc national, mais pas de guérite pour payer à l'entrée, pas d'échoppe à touristes, juste une yourte qui fait office de station de rangers et quelques mobilhomes pour les loger. Si vous cherchez à en savoir plus sur Chaco Canyon, on vous indiquera GB Cornucopia, c'est le spécialiste à qui s'adressent tous les archéologues.
Il faut décrire cette construction, car c'est difficile de la comprendre quand on est dedans ou juste à côté. Pour cela, il faut monter sur la falaise qui est juste au-dessus de nous. Ce bâtiment a été construit au nord du canyon, juste sous la falaise qui le surplombe, d'environ 30 mètres. De là-haut, on voit qu'il s'agit d'une forme en demi-lune, dont la partie courbe est adossée à la falaise. C'est aussi la plus haute. En entrant dans le bâtiment, il faut descendre pour aller jusqu'au centre, où se trouvent deux plazas, deux aires planes, sans toit. Dans les pueblos, les plazas sont considérés aujourd'hui comme sacrés en raison de ce qui s'y déroule. C'est aussi le lieu où tout le monde se retrouve. Si vous allez dans les pueblos durant les jours de fête voir les danseurs, vous passerez la majorité de votre temps sur la plaza, car c'est là que se déroulent les danses. Aussi, nous pensons, sans en être absolument sûr, que c'est le genre d'activité qui avait lieu ici également. Allons sur la partie sud du bâtiment, au-delà de la plaza. Il y a ici un mur droit. C'est aussi l'endroit le plus bas. Ce sont des petites pièces en rez-de-chaussée qui forment ce mur sud. Le bâtiment fait donc face au sud. Cela lui permet de recevoir le soleil en hiver lorsqu'il est bas. Une sorte de régulation passive. Cela permet aussi à la brise de pénétrer durant les autres saisons. En hiver, le vent est vraiment froid, mais il vient du nord et la falaise le bloque. L'édifice semble positionné et orienté avec soin, afin de tirer parti de la nature. Cela ressemble à un capitole par le nombre de constructions et l'activité humaine. Mais quand on cherche des preuves évidentes de gens ayant vécu ici, on ne les trouve pas. Rien ne permet de penser qu'ils vivaient ici. Ça pourrait être un lieu de rassemblement, et ces bâtiments pourraient être publics. Peu de gens vivaient ici. La plupart rendaient visite. En ce qui concerne le State Capitol de Washington aujourd'hui, tous les Américains que je connais sont allés le visiter ou se sentent concernés par l'endroit. C'est une connexion symbolique qui les attire. Quand ils vont là-bas, ils restent un peu, puis ils partent. Ici, ça ressemble à quelque chose de similaire. C'était peut-être d'ordre religieux ou politique, ou peut-être n'y avait-il aucune distinction entre ces catégories.
Avant que les archéologues n'étudient les lieux en respectant ce qu'ils trouvaient, d'autres sont venus il y a plus d'un siècle, au mieux pour faire des photos, au pire pour piller. Meredith Mosley, Park Ranger.
Cette chambre est intéressante parce que quand Neil Judd a creusé la chambre dans les années 1920, il a travaillé pour National Geographic. Et pour les photos, il a placé les vigas et les lattes dans le mur. Et par exemple, le matate, c'est un grinding stone pour
une meule.
Le maïs. Il a placé dans la chambre. Et puis, il a pris des photos pour National Geographic. Mais ce n'était pas l'état de la chambre avant. C'était le travail de Neil Judd. So it's all original wood, but
C'est Dubois originaire d'ici, mais il ne se trouvait peut-être pas dans cette pièce. C'est lui qui l'a placé ici. Il a même brûlé les extrémités pour que ça ait l'air plus authentique, comme si l'édifice ne semblait pas assez vieux.
Certains lui en veulent et le considèrent plutôt comme un showman. Mais c'était aussi son job. Mais il a compris que, par exemple, dans cette pièce, il y avait un feu. Donc il a créé le contexte pour que l'impression soit totale. Alors brûler un peu de bois ici n'était pas faux, même si ça ressemble un peu à un jeu. Vous pouvez voir ici de la brique rougie. Cela signifie que du fer a été en contact à de hautes
températures.
Et quand on voit cela, on sait qu'il y a eu du feu dans cette pièce. Certains pensent que c'était pour des cérémonies.
How much farming was actually done in the canyon? There are people who believe that the water diversion technologies that we find here, such as a dam.
Quelle était l'importance de l'agriculture dans Chaco Canyon? Il y a des gens qui estiment qu'avec la technologie d'irrigation trouvée ici, comme le barrage situé à l'ouest du canyon, à moitié naturel, mais qui permettait de conserver l'eau, mais aussi avec d'autres moyens de contrôler l'eau, comme à côté de ce bâtiment, l'agriculture était très présente. Nous voyons beaucoup de moyens pour contrôler l'eau, mais comment était-ce utilisé? C'est une question débattue. Nous savons qu'une partie du maïs consommé ici n'était pas produite ici. Mais nous n'en sommes qu'aux études préliminaires afin d'identifier d'où venait le maïs. C'est un grand débat aussi. Nous savons que la plupart des choses qu'on trouve ici étaient apportées, sauf les matériaux de construction qui proviennent de la falaise. La plupart des poteries n'étaient pas réalisées ici. La majorité du bois était amenée aussi, durant cette période de 3 siècles. Pareil pour les outils, les pierres à découper, l'obsidienne pour les pointes des flèches. Tout cela était apporté. Ils avaient sûrement les capacités de faire de l'agriculture dans cette région. Dans les années 1050 jusqu'à 1200, certains avancent même 1300. On a trouvé d'ailleurs des champs à l'ouest, dans un endroit appelé Chuscos. C'est une petite chaîne de montagnes où il y a des édifices construits par les Chacoans et où se trouvent des champs. Donc, ils peuvent avoir cultivé ici. En fait, on le sait. Mais disons que cela peut avoir suffi pour la majorité de leur nourriture. Le maïs, les haricots et les courges constituaient la base de leur alimentation. Ils n'ont jamais cessé de planter et de les partager.
Comment une société si prospère a-t-elle pu décliner et pratiquement disparaître en l'espace de quelques années? Rien de sûr, évidemment, mais les fouilles archéologiques et les études ont permis d'arriver à des conclusions qui sont admises aujourd'hui par la majorité. GB Cornucopia.
Ils sont passés par le même genre de modèle que celui que nous avons aujourd'hui. En ce moment, nous avons la sécheresse. Nous sommes dans une phase de sécheresse ici depuis une douzaine d'années. Quand je suis arrivé ici, il pleuvait pratiquement tous les jours en été, durant la saison des pluies. Là, nous venons d'entrer dans la saison des pluies et on n'a pratiquement pas eu d'eau. Vous pouvez voir des nuages. On aura peut-être un peu d'humidité. C'est tout. Mais durant ma première année ici, il pleuvait chaque jour. Il y avait des fleurs, des crapauds, c'était vert, ça n'est plus le cas. Dans le passé, il y a eu des sécheresses. Dans le futur, il y aura certainement des périodes humides. Ils sont passés par ce genre de cycle. La dernière sécheresse qu'ils ont affrontée a duré plusieurs décennies. 40 ou 50 ans. Vous ne surmontez pas cela facilement. Mais ils avaient eu d'autres sécheresses avant. En étudiant les bâtiments, et notamment le bois utilisé pour les toits, on s'aperçoit qu'on trouve de nouvelles constructions, surtout après les bonnes années humides. Certains disent que la dernière construction a été réalisée dans des temps désespérés, car ils étaient confrontés à la sécheresse. Ils ont construit pour surmonter la sécheresse. Ça n'a pas marché. C'est très sec maintenant. Il y a eu de meilleurs moments, mais ce n'est pas un climat différent de celui qu'ils ont eu.
Dave Stewart.
La société de Chaco Canyon s'est transformée en 3 siècles environ. Voilà comment. À l'époque du premier grand peuplement, c'est-à-dire Pueblo Bonito, il y avait un village dont on parle peu, Una Vida, une vie. Et un autre, Peñasco Blanco, White Rocks. Chacun gardait une des entrées du canyon. Pendant que ces gens construisaient de larges granges, ça se passait entre 850 et le début des années 900. Quelques fermiers sont allés plus à l'intérieur et ont appris à cultiver du maïs plus gros, à des altitudes moins élevées que là où ils l'avaient cultivé durant 3 ou 4 siècles. Ils ont quitté les collines pour les plaines, où il y a une meilleure nappe phréatique, des nuits plus chaudes et une saison de culture plus longue. Aussi, les premiers fondements de la société Chacoan sont venus de ces milliers de familles de fermiers. Mais lorsque leur nombre a augmenté, ils ont dû passer au travers de périodes de famine, de sécheresse et de conflits. C'est dans ce contexte que les compétences des bâtisseurs de Chaco Canyon ont servi. Ils ont construit de grands édifices près des lieux de production afin de collecter le maïs, échanger des poteries, tenir des cérémonies religieuses. On peut comparer cela aux villes et aux cathédrales du Moyen Âge en Europe. Le temps de la grandeur se situe aux environs de 1050. Il s'agissait probablement d'un territoire dominé par l'élite de Chaco Canyon, de la taille de l'Écosse, peut-être un peu plus petit. Ils ont construit un réseau de routes qui n'avait rien à envier à celui de la Rome antique. La qualité de vie ne cessait de s'améliorer pour l'élite, alors qu'elle se dégradait pour les fermiers. Aussi, à la fin du XIe siècle, début du XIIe, il y avait ce système sophistiqué géré par des gens qui étaient de plus en plus isolés et indifférents aux besoins et conditions de vie des fermiers. Nous savons quelle était la condition de ces petits fermiers et de leurs familles pour avoir étudié les restes des squelettes trouvés près des fermes, ceux qui datent de la fin du XIe siècle. La productivité s'effondrait. Le système qui avait si bien fonctionné semblait déconnecté entre ceux qui possédaient et ceux qui ne possédaient pas. Cela, conjugué à la sécheresse de cette période, a conduit à l'abandon de plusieurs fermes. C'était juste une réponse à la misère. Les petits fermiers sont retournés dans les collines où leurs ancêtres avaient cultivé 4 ou 5 siècles auparavant. C'était une solution à court terme, mais en relation avec la nature, car plus haut, il y a plus de pluie, et ça adoucit le prix de la sécheresse. En revanche, on ne peut pas faire pousser du maïs gros à cause des nuits froides, de la neige tardive, des gelées imprévisibles. Il se trouvait alors à des altitudes d'un peu plus de 2000 mètres. Ce n'est évidemment pas la même chose que la culture dans les vallées. Et là, ils ne construisirent pas ces grands villages d'affaires et de commerce, car le concept était que chaque village était entouré par des fermes et se suffisait à lui-même. Les premières sociétés de ces pueblos étaient obsédées par l'efficacité. Ils ne voulaient plus d'organisation sociale en classe, comme les trois générations qui les avaient précédées à Chaco. Et chaque village devait se suffire et ne plus dépendre d'un grand centre comme à Chaco Canyon.
Tout ce que nous savons sur les ancêtres des Pueblos, nous le découvrons en analysant et en interprétant les vestiges trouvés sur les différents sites. On pourrait penser qu'avec une sorte de mémoire collective, les tribus actuelles vivant dans les Pueblos pourraient être d'un grand secours. Un jour, G.B. Cornucopia a posé quelques questions à des Amérindiens locaux. Ils se sont murés dans le silence, laissant juste échapper. Vous feriez mieux de laisser nos morts reposer en paix.
When we think about kivas today, we have a limited understanding of what kiva really is.
Étant étrangers à cette culture, nous avons aujourd'hui une compréhension très limitée de ce qu'étaient les kivas. Nous pensons qu'il s'agissait de lieux pour des cérémonies. C'est durant les années 1880 qu'il a été décidé d'appeler chaque structure circulaire ici une kiva. Les petites kivas et les grandes, à part le fait qu'elles soient rondes, n'ont rien en commun. La plupart des kivas de cet édifice sont petites. On les surnomme généralement kivas de clan. On ne sait pas ce qui se passait dans ces pièces. Certains disent que c'était pour des cérémonies. Des Indiens Hopi sont venus ici et m'ont dit que celles-ci n'étaient pas des kivas, car elles sont trop petites et ne permettent pas de danser. La grande kiva est plus importante, mais les sols n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les structures des murs et des toits sont différentes, tout comme les moyens d'entrée. Peut-être que la grande kiva était la seule conçue pour les cérémonies. Néanmoins, on commence à parler de religion et de cérémonies, et là, nous sommes en terrain presque inconnu, car on n'a qu'une vue limitée de ce que les descendants de ces gens font aujourd'hui. Et nous ne sommes pas sûrs que leurs ancêtres faisaient pareil, car lorsque les Espagnols sont venus ici, soit environ 250 à 300 ans après que ce lieu ait été abandonné, la vie s'est considérablement modifiée pour ces gens. Nous ne savons pas s'ils ont conservé les mêmes pratiques que celles d'il y a 1000 ans.
Il est difficile aujourd'hui de comprendre la culture Anasazi, non seulement parce que de nombreuses preuves ont disparu ou sont encore enfouies, mais aussi à cause d'un raisonnement fondamentalement différent. Pour l'appréhender, il faut oublier le mode de pensée occidental.
En ce qui concerne les symboles que l'on trouve sur les pétroglyphes et les pictogrammes, peut-être des symboles des clans, il y a peut-être des informations à tirer, comme « voici notre lieu d'activité », le clan de l'oiseau ou le clan du perroquet, etc. Mais il n'y a rien qui s'apparente à de l'écriture ou à des plans de construction. Songez que si cet édifice a été construit en 300 ans, ça veut dire plusieurs générations, il y a forcément quelqu'un qui avait un plan et qui a pu le communiquer aux générations d'ouvriers. Nous ne savons pas comment ils ont fait cela. Si ce n'est que nous vivons dans une société alphabétisée, nous pensons automatiquement que les autres cultures sont inférieures, plus faibles, qu'elles ne peuvent pas transmettre autant d'informations. Mais c'est simplement parce que nous ne savons pas comment les autres cultures fonctionnent réellement. On peut imaginer qu'il y a des gens qui avaient des cartes, ils voyageaient et chantaient une chanson. Et cette chanson, c'était la carte. Rien d'écrit, pas de papier, juste un chant, et ça vous dit où aller et ce que vous voyez.
Well,
Il y a des évidences dans l'art rupestre et les symboles. Dans les temps historiques, les pueblos disposaient de choses qu'on ne trouve pas ici, comme les cachinas. Les cachinas sont des figures très importantes, et cela semble montrer qu'une part du bouleversement vient d'un changement dans la religion, comme si lorsqu'ils ont quitté Chaco Canyon, ils ont répudié l'ancienne religion, ou qu'ils avaient mis fin à certaines choses avec l'arrivée des Espagnols. Les cachinas et d'autres symboles sont suffisamment importants pour montrer une rupture avec la religion précédente. Cela se voit aussi dans l'architecture, car cela a apporté une certaine rigidité avec des formes plus massives. Ça reflète quelque chose, un changement de style de vie. Mais ce changement provient peut-être simplement du fait que ça ne fonctionnait pas. Lorsque la sécheresse est arrivée, la religion ne fonctionnait pas. Elle n'amenait pas la pluie. Alors ils ont cherché quelque chose de nouveau, de différent. Tout cela constitue surtout des spéculations, basées sur quelques évidences. Et en fonction du poids que vous donnez à ces évidences, vous obtenez des théories différentes. J'ai eu ce genre de conversation avec des Amérindiens qui pensaient que ça n'est pas exact. À travers certaines de leurs histoires, ainsi que dans leurs variations, ils ont appris au fil du temps que cela n'avait pas fonctionné. Néanmoins, ça a duré longtemps. Évidemment, cela a fonctionné pendant un bon moment. Ils ont construit Pueblo Bonito au cours d'une période plus longue que celle de l'existence des États-Unis d'Amérique. Nous devons admettre que c'était une société fructueuse. Et ces gens sont toujours ici. Ils ont changé, ils ne font plus cela, mais des choses plus modestes.
Il y a eu une période de profond bouleversement. Les gens qui se sont installés à Chaco Canyon, principalement dans les années 300 et 400 après Jésus-Christ, ont développé leur village rapidement, comparativement à ce qui se passait alentour. Parce qu'ils étaient le lien dans le commerce des poteries et du maïs, au milieu d'énormes contrées au climat différent. Au nord et à l'ouest de Chaco Canyon, les précipitations arrivent deux fois par an. La neige en hiver, la pluie en été. C'est le genre de climat que l'on trouve sur la côte nord-ouest des États-Unis, le long du Pacifique. Au sud et à l'est de Chaco Canyon, la majorité des précipitations survient entre juillet et septembre, sous forme de mousson d'été. Et cette mousson est fonction des conditions météo dans le golfe du Mexique. La limite se situe à peu près à Chaco Canyon. Aussi, pour une année donnée, les conditions agricoles sont différentes pour une ferme située au nord et à l'ouest de Chaco que pour celle située au sud et à l'est. En réunissant ces deux districts climatiques, en échangeant le maïs, les graines de maïs, les poteries et la nourriture entre eux, les premiers Anasazi de Chaco Canyon ont créé un système qui limitait les risques pour les gens de toute la contrée. Car lorsque c'était une bonne année pour le plateau du Nord-Ouest, c'était une mauvaise année pour la région sujette à la mousson et vice-versa. On parle souvent de Chaco Canyon comme d'un lieu de cérémonie, et c'est ce que c'est devenu. Mais cela partait à l'origine du même schéma économique qui a rendu le Rhin si important en Europe et qui a plus tard placé l'Angleterre au centre des échanges avec l'Amérique, etc.
Ce coup de pouce initial à la croissance était basé sur la géographie, le climat et les transferts de marchandises. Ce que l'on trouve à Chaco Canyon, c'est une forme typique d'architecture avec d'énormes villages que nous appelons désormais Great House ou Grande Maison, des lieux destinés aux cérémonies, quelques pièces résidentielles et des centaines de grandes pièces pour entreposer les marchandises situées généralement au deuxième ou troisième étage. Il y avait donc de nombreuses possibilités pour conserver le maïs et la nourriture. Il y avait des poteries et de la nourriture qui arrivaient sans cesse à Chaco Canyon. Et dans les années 1000, un système routier où toutes les routes aboutissaient à Chaco Canyon. Cela correspondait un peu à l'adage européen où tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins menaient à Chaco Canyon.
Autant Chaco Canyon est un endroit isolé, autant Mesa Verde fait tout pour séduire le touriste. Certains pourront le regretter, cela offre au moins l'avantage de sensibiliser des gens à une culture dont ils n'auraient certainement jamais soupçonné l'existence. On y accède par une route refaite récemment, on arrive à un visitor center de bonne taille où l'on vend les tickets pour les visites, il y a un hôtel dont les chambres offrent une vue magnifique sur le canyon, des restaurants, etc. Néanmoins, dès qu'on s'aventure vers les lieux où se trouvent les ruines, la magie opère. C'est grandiose. On imagine sans peine vivre à l'époque de ses habitants, même si l'on commet certainement des erreurs dans ses évocations.
Bienvenue à Mesa Verde au Colorado.
Il y a plusieurs vestiges répartis sur la surface du parc. Chacun possède sa propre personnalité. Kimberly Accardi, park ranger, nous guide vers Spruce Tree House.
We are currently at Spruce Tree House in Mesa Verde, and this particular cliff dwelling.
Nous sommes actuellement à Spruce Tree House, la maison de l'épicéa, dans le parc de Mesa Verde.
So what we see,
ce village construit dans la falaise est un des plus grands du parc, le troisième en fait. Il est profond d'environ 30 mètres et haut de 10 mètres. Les pièces sont disposées sur deux ou trois étages et dans la profondeur, on en trouve 5 ou 6 à la suite. Il y a aussi des kivas, qui sont des lieux de cérémonie, des pièces circulaires et enterrées. Il y a également de magnifiques balcons et des plazas. Nous savons que c'est un village résidentiel où vivaient entre 60 et 80 personnes dans les années 1200. Il y a 8 siècles, ils avaient élu domicile dans cette alcôve. C'étaient des fermiers. Ils cultivaient le maïs, les courges et les haricots. Les habitants des Pueblos avaient domestiqué les dindes et les petits chiens. Ils étaient avant tout fermiers, même s'ils amélioraient leur ordinaire en chassant le gibier ou en cueillant des plantes sauvages. Ils vivaient ici, dans l'alcôve formée par la falaise, mais cultivaient sur le plateau, environ 30 mètres au-dessus. Ils grimpaient de ce côté pour atteindre les champs. C'est une façon peu ordinaire de concevoir l'agriculture, mais ils étaient très bons fermiers. En fait, ce qu'on trouve sur le plateau, c'est la meilleure terre de culture, du terreau riche qui retient bien l'humidité. À cause de l'altitude d'environ 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a des précipitations de l'ordre de 46 cm, c'est-à-dire plus de pluie que dans la vallée en bas. Par ailleurs, le plateau du Mesa n'est pas totalement plat, mais il est incliné de quelques degrés vers le sud. La saison de culture est un peu plus longue à Mesa Verde. Et les archéologues pensent que c'est une des raisons qui ont poussé certains habitants des Pueblos à venir s'installer dans ces falaises et à cultiver sur le plateau.
Thomas Wolfe est un ranger passionné. Mieux, il transmet sa passion à ceux qui le suivent lors des visites. Il nous emmène vers Longhouse, un endroit un peu à l'écart des sites les plus visités, mais qui permet de bien comprendre un des aspects essentiels de la vie à Mesa Verde, l'irrigation.
One of the reasons Mesa Verde is important is the science that's going on here.
Mesa Verde est important à cause de la science acquise à propos de la gestion de l'eau. Les habitants de Mesa Verde ont montré une formidable habileté, non seulement pour conserver l'eau, mais aussi pour la récupérer. Le plateau a été travaillé afin de fournir de l'eau à des milliers de personnes. Nous savons que 2000 personnes vivaient ici dans les années 1200, rien que sur le Mesa Weatherhill. Vous pouvez voir ici un petit barrage. Il est intéressant car le type de barrage difficile à faire est celui qui fuit. Et celui-ci fuit pour alimenter le barrage suivant, qui fuit pour alimenter le barrage suivant, etc. À Mesa Verde, il faut diriger l'eau dans cette direction. Les fermiers n'avaient pas besoin d'irriguer pour le maïs. Ils pouvaient le faire pousser en 110 jours, même si on est à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui est un temps très court pour faire mûrir le maïs. Aussi, les épis sont petits, et les grains aussi. Les fermiers ont développé ces caractéristiques. Ils le plantaient à une grande profondeur, car la terre retient l'humidité ici. Il n'est pas besoin d'irriguer. Toute l'eau nécessaire pour que le maïs mûrisse entre les dernières gelées du printemps et l'automne se trouve dans le sol lors d'une bonne année.
À Mesa Verde, tous les bâtiments sont construits dans des anfractuosités de falaises. Ils sont protégés des intempéries, mais difficiles d'accès. Il faut souvent emprunter des échelles rudimentaires pour s'y rendre. Kimberly Accardi.
C'est une question difficile pour les archéologues. Pourquoi sont-ils venus s'installer dans cette infractuosité de falaise? Il y a plusieurs pistes. L'une d'elles met en avant les raisons pratiques, parce que c'est plus confortable dans cette alcôve. Par exemple, ici, à Spruce Tree House, nous sommes orientés au sud-ouest, ce qui signifie qu'il peut faire très chaud en été, mais s'il fait trop chaud, vous n'avez qu'à vous enfoncer un peu plus dans la cavité où il fait plus frais. C'est comme de l'air conditionné naturel. En hiver, le soleil est plus bas et il atteint plus facilement l'alcôve et il chauffe agréablement les murs en grès qui retiennent la chaleur jusqu'au soir. Une théorie dit qu'ils sont venus ici pour tirer parti du soleil d'hiver et pour être au sec, mais aussi à cause des petites sources que l'on trouve souvent au fond des alcôves ou à l'entrée du canyon et qui étaient leur principale source d'approvisionnement. Il était donc plus judicieux pour ces fermiers, au lieu de devoir descendre ici pour chercher de l'eau et remonter sur le plateau, de construire leur habitation ici et d'avoir l'eau juste derrière chez eux. À Chaco Canyon, on trouve des preuves de l'existence d'une classe dirigeante et d'une classe d'agriculteurs. À Mesa Verde, il n'y en a pas. Les archéologues pensent qu'à Mesa Verde, tous étaient égaux. Ils estiment qu'il y avait peut-être un conseil des anciens qui guidait la communauté ou prenait des décisions pour elle, mais pas une élite qui dictait aux autres la façon de vivre. Voici une kiva très commune de Spruce Tree House à Mesa Verde. La pièce est profonde d'environ 3 mètres. Il y a un âtre caractéristique à l'intérieur. Un petit feu est suffisant pour chauffer cette pièce fermée. Les kivas sont particulièrement bien conçues. Tout d'abord parce qu'elles sont enterrées, ce sont les pièces les mieux isolées, les plus chaudes en hiver, les plus fraîches en été. Chaque kiva possède une entrée d'air frais. Et les kivas sont non seulement les pièces les mieux isolées, mais aussi certainement les mieux ventilées du Pueblo. Les archéologues pensent qu'outre la pratique des cérémonies et des rituels, ces kivas servaient aussi aux familles pour y vivre durant les mois d'hiver froid, car elles étaient de toute évidence les pièces les plus confortables. Nous pouvons descendre dans une kiva.
be your warmest space. So right now we are inside of one of the kivas here, and it's roughly
maintenant nous sommes à l'intérieur d'une kiva. De structure à peu près circulaire et d'environ 3 mètres de diamètre et 2 mètres de haut. Le toit est très solide. Il y a un banc qui cerne la kiva, au-dessus duquel se trouvent 6 colonnes de pierre qui supportent le toit. Ce toit est fait de larges poutres, habituellement en genévrier ou en pin. Généralement, ils fabriquaient un cercle, ou plutôt une sorte d'hexagone avec ses poutres, sur lequel ils mettaient un deuxième cercle avec des poutres plus petites, puis un troisième, etc., etc., jusqu'à obtenir une structure en forme de dôme. Ensuite, ils utilisaient des petites branches ou des buissons pour boucher les trous et au sommet, ils mettaient du mortier à base de boue. De l'extérieur, le toit de la kiva semble plat, mais il faut s'imaginer un panier retourné posé sur les 6 colonnes. C'était une façon ingénieuse de construire un toit solide et fiable.
Ça s'est effondré, comme la plupart des sociétés, en raison d'une multitude de causes simultanées. La mortalité infantile, le manque de protéines qui mène directement à la mortalité infantile, une population croissante, l'érosion des champs amenant à la baisse de productivité des fermes, donc moins de nourriture pour plus de monde. Il n'y a en moyenne que 70 calories dans un épi de maïs. Un travail intense réclame plus de nourriture rien que pour assurer l'équilibre du métabolisme. Et les fermiers n'en avaient pas assez. Et en plus, la sécheresse est arrivée. Durant les années 950 jusqu'à pratiquement 1100, la pluie tombait avec constance, année après année. Puis cette constance a disparu. La situation est redevenue normale. Ils avaient créé un type de société qui ne pouvait se maintenir avec des conditions climatiques normales sur le long terme.
Voilà ce que savent les archéologues. Ils savent que les habitants des Pueblos ont vécu dans cette région, pas seulement à Mesa Verde, mais dans la région des Four Corners jusqu'au début des années 1300. Et quand ils sont partis, ils sont allés vers le sud-ouest et le sud-est. Ils sont allés par exemple dans le nord-est de l'Arizona, où vivent les Hopis, ou bien dans la vallée du Rio Grande au Nouveau-Mexique. C'est là que nous trouvons leurs descendants, les 21 tribus des Pueblos d'aujourd'hui. Les archéologues ont bien compris quand ils sont partis et où ils sont allés. En revanche, ils cherchent toujours à comprendre pourquoi ils sont partis. Il y a plusieurs théories, bien sûr, mais parmi les plus sérieuses, il y a celles qui parlent de surpopulation liée à d'autres facteurs que l'on connaît, comme le changement climatique du milieu des années 1200, où les températures ont chuté de quelques degrés, ce qui a affecté, bien sûr, leur saison de culture. En d'autres termes, il n'y avait plus assez de temps pour que le maïs, les haricots et les courges arrivent à maturité et donc la nourriture est devenue plus rare. Donc c'est l'idée qu'il y avait beaucoup de monde, plus assez de nourriture et pas suffisamment d'eau, qui semble avoir été un facteur important pour les pousser à partir. Mais il y a encore des recherches à faire sur le sujet.
Il n'y a pas que Chaco Canyon et Mesa Verde qui témoignent de la culture des Anasazi ou ancêtres des Pueblos. Ce sont cependant deux lieux très importants. Comme d'autres sociétés, celle-ci a connu la croissance, l'apogée, puis une lente descente. Elle est arrivée à une forme qui semble stable, même si elle est un peu éparpillée aujourd'hui, et qui est matérialisée par les Pueblos. On a certainement encore beaucoup à apprendre sur les Anasazi, mais aussi des Anasazi. Les raisons de leur déclin ne sont pas sans rappeler des éléments de nos sociétés modernes. Et comme le dit Dave Stewart, lorsque les sociétés sont en décadence, elles construisent des routes.
C'était une société basée sur la croissance, demandant aux élites de Chaco Canyon de modifier continuellement les régions commerciales afin de favoriser celles qui avaient de bonnes conditions météorologiques. Situation similaire à l'Amérique actuelle ou certaines parties du monde. Le travail se déplaçait subitement d'une région vers une autre pour aller là où il y avait de bonnes précipitations ou une culture aisée. Un autre problème qui a été fatal, c'est qu'ils ont créé des infrastructures toujours plus importantes juste pour servir la société en expansion et qui sont devenues de plus en plus difficiles à supporter financièrement à mesure que la production diminue. Les coûts pour obtenir des bénéfices furent très différents dans la période 980-1020 et dans celle comprise entre 1080 et 1120. Là, les coûts ont explosé et les bénéfices ont sombré. Vous voyez ce qui s'est passé? Les gens se sont réunis et ont fondé cette grande civilisation à Chaco Canyon. Certains parmi eux ont été très fiers et ce n'était jamais assez pour eux. Ce qui ressort de tout cela, c'est que la société a gaspillé ses ressources pour des infrastructures qui ne bénéficiaient pas aux citoyens moyens, celui qui cultivait le maïs, coupait le bois, etc. Nous savons cela car en étudiant les squelettes datant de la fin du XIIe siècle jusqu'au XIVe, nous ne pouvons voir la différence en termes de taille, de masse musculaire ou de mortalité infantile entre l'élite et le peuple. Biologiquement, ils étaient identiques, ce qui signifie qu'ils étaient égaux sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants. Et dans les années 1400, il y avait plus de gens autosuffisants, moins de gaspillage dans des ouvrages grandioses. Les premiers pueblos ressemblaient alors à ce qu'avaient été les Great House pour les élites de Chaco Canyon deux siècles avant. Quand je regarde l'Amérique actuelle, j'ai envie d'encourager les politiciens qui viennent au micro pour dire « Il est temps de changer quelques détails sur votre façon de vivre. Débarrassez-vous de votre deuxième voiture. N'achetez pas de la nourriture que vous ne consommerez pas. Nous devons gaspiller moins. En gaspillant moins, nous aurons plus d'énergie, d'argent et de ressources pour améliorer la qualité de la vie plutôt que la quantité. » Comme les gens de Chaco Canyon, nous avons été trop obsédés par la quantité.
C'était les Anasazi, ou ancêtres des Pueblos. Avec Dave Stewart, professeur à l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, G.B. Cornucopia et Meredith Mosley, Park Rangers à Chaco Canyon, Kimberly Accardi et Thomas Wolfe, Park Rangers à Mesa Verde, et les voix de Marc Choupard, Jean-Paul Borde, Claudie Guillot et Geoffroy Thiébault. Une émission de Jean-Richard Dufour et Charles Trou.